Comment? Bah, la petite souris, elle a fait ce qu'elle lui a dit le crapaud, elle a pris son élan, elle a sauté, elle a sauté, elle a sauté, bah, elle n'est pas tombée sur la pierre, elle est tombée dans la rivière. Et puis comme chez elle, il n'y avait pas d'eau, elle ne savait pas vraiment très bien nager, donc elle s'est débattue, 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 elle est arrivée de l'autre côté de la rivière. Et puis là, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées, vous savez, c'est un peu comme il y avait des cases censurées, elle est allée voir le crapaud, puis elle lui a dit tout ce qu'elle pensait. Le crapaud lui a dit, oulala, 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 t'énerve pas, c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est que tu te rappelles qu'est-ce que tu as vu quand tu étais en l'air. La pauvre souris, déjà, elle venait d'avoir des grosses émotions, mais bon, malgré tout, ça lui a réveillé quelque chose dans la tête, et dans la tête, ouais, elle s'est dit, oui, c'est vrai, quand j'étais en l'air, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une tache sur le soleil. Alors là, le crapaud lui a dit, ben, c'est bien. C'est super, t'as trouvé ton destin, suis ton destin. Bah, la petite souris, son destin, une tache dans le soleil, bon, mais enfin, elle n'avait pas envie de retraverser la rivière, de toute façon, hein, donc elle est partie, elle s'est dit, on verra bien. Et elle a marché comme ça pendant plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, elle est arrivée à l'entrée d'un désert, sans eau, sans nourriture, sans. Mais elle s'y est engagée quand même. Elle s'y est engagée quand même, et bien sûr, quand on marche comme ça dans son désert, on ne va pas très loin. Et au bout d'une même pas une journée de marche, elle s'est évanouie. Ben, quand elle s'est réveillée, elle n'était plus dans le désert, la souris. Hein. Elle était dans une espèce de cabane en rondin. Elle a vu d'un porte qui s'ouvrait, qui grinçait. Et derrière la porte, elle a vu des grandes moustaches. Et puis derrière les grandes moustaches, un petit museau. Et derrière le petit museau, des tout petits yeux et des petites oreilles. C'était une autre souris. Quand même. Qui était là et qui dit, mais qu'est-ce que tu faisais dans le désert sans nourriture, sans rien à manger, t'es complètement folle. Et la petite souris lui racontait son aventure. Quand elle lui a parlé du crapaud, l'autre souris s'est mis à rire, il lui dit, écoute, il m'est arrivé la même chose il y a quelques années, moi tu vois pas folle, les taches sur le soleil, hein, c'est ici, je suis bien, je m'y suis installé, je ne bouge plus, si tu veux on te fait une cabane à côté, tu verras, c'est confortable. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Seulement au bout de quelques semaines de vie dans la forêt, la petite souris, il y avait toujours la tache dans le soleil qui était là. Elle s'est dit, non, non, je ne peux pas rester, il faut que je parte. Et cette fois-ci, elle a pris de quoi manger, de quoi boire, elle est repartie. Et là, elle n'a pas marché 2 jours, 3 jours, non, non, elle a marché plusieurs mois comme ça, dans les grands espaces amérindiens. Hein. Jusqu'au jour où elle est arrivée dans un immense pré. Et là, dans cet immense pré, il y avait un gros rocher. Et de chaque côté du rocher, il y avait 2 touffes de poils. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette grosse bestiole qu'il a derrière? Elle a fait le tour, elle est allée voir. Il a derrière le rocher complètement allongé, et puis apparemment pas en très bonne santé, ben, il y avait un bison. Un gros bison. Et puis plus elle s'approchait, plus le bison ne bougeait pas. Elle s'est dit, oulala, pas en forme du tout le bison. Hein. Donc elle s'est approchée jusqu'à sa tête, elle montait jusqu'à l'oreille. Elle lui dit, bison, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Et puis le bison lui a dit non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Le bison lui a dit, je ne pense pas que tu pourrais faire quelque chose pour moi. Il n'y a qu'une chose que tu pourrais faire, mais tu ne le feras pas. La petite souris lui a dit, bah, dis-moi toujours, on ne sait pas, on verra bien. Et le bison lui a dit, bah, si tu veux me sauver, il faut que tu me donnes un œil de ta tête. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la demande, hein, mais la petite souris, il y a un petit recul, elle s'est éloignée, elle a commencé à tourner, presque prête à partir, mais bon. Elle a réfléchi, puis elle s'est dit, bon, en dehors de ma tête, il me restera toujours un. Et puis si ça peut le sauver, c'est bien. Donc au bout d'un moment, elle a pris une décision, elle a dit oui, elle est allée voir, donc elle ne savait pas comment ça allait se passer. Hein. Le bison, il n'a pas hésité, mais il n'a pas non plus fait que ça soit. Dès qu'elle a pris la décision de donner son œil, il a roulé, le bison l'a mangé. Et il s'est retrouvé en pleine forme. Alors là, le bison lui a dit, je ne pensais pas que tu le ferais. Demande-moi tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. La petite souris lui dit, écoute-moi, je cherche les taches sur le soleil, donc si tu peux m'avancer vers les montagnes, ça sera très bien. Le bison l'a mis dans son dos et ils ont commencé à courir comme ça, des semaines, des mois, jusqu'à arriver aux grandes montagnes qui se retrouvent là-haut. Et dans ces grandes montagnes, bien sûr, il y a des grandes falaises. Et là, le bison lui a dit, moi là, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas escalader, c'est pas mon truc, ça, l'escalade. Vas-y, continue-toi. Et la petite souris est partie sur des tout petits sentiers, dans les falaises, dans les montagnes. Et au bout de quelques jours de marche, elle s'est retrouvée dans un tout petit pré. Et dans ce tout petit pré, il y avait un tout petit rocher. Et de chaque côté du tout petit rocher, il y avait 2 touffes de poils. Elle s'est dit là, pas question. commencé à continuer, elle n'avait pas envie d'avoir la même aventure. Hein. Et puis plus elle marchait, plus elle disait, ouais, mais c'est pas si gros qu'un bison. Puis c'est peut-être pas la même chose. Et puis peut-être qu'il ne me demanderait pas un œil. Et puis, elle a fait demi-tour, elle est allée voir. Et là, c'était un tout petit loup qui était là, derrière le rocher, qui était tout aussi malade que le bison. Et vous l'avez deviné, bah, il a fait exactement la même demande. Si tu veux me sauver, donne-moi un œil de ta tête. Ah bah, je peux vous dire qu'elle a réfléchi plus longtemps que la première fois. Hein. Parce que là, quelque part, c'était fini pour elle, elle ne voyait plus rien. Bah, elle l'a quand même donné, son œil. Bah, le loup l'a mangé. Le loup lui a demandé ce qu'elle voulait. Il lui a dit, écoute, là, je ne vois plus rien, mais je cherche les taches sur le soleil. Si tu peux m'amener un peu plus haut. Bah, il a chargé son sandeau. Ils ont couru, tant qu'ils ont pu. Jusque dans les neiges éternelles. Et puis, à un moment donné, dans les neiges éternelles, le loup ne pouvait plus avancer. Il avait la neige jusqu'au garrot. Et là, il a dit la petite souris, mais maman, si tu veux continuer, à toi y aller, t'attends, tu vas trouver le cime de montagne, je ne peux pas aller plus loin. Et la petite souris montait, et puis au bout d'un moment, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est couchée, pensant que ça allait être fini pour elle. Et puis au moment où vraiment elle sentait qu'elle était très mal, elle a commencé à avoir mal à ses pattes, elle s'est rendue compte que ses petites griffes grandissaient. Elle s'est rendue compte que son museau devenait de plus en plus dur, de plus en plus grand, de plus en plus tordu. Elle s'est rendue compte à un moment donné aussi que ses poils n'étaient plus des poils, qui s'allongeaient, qui devenaient plus doux, et qui devenaient des plumes. Et puis au moment où elle a compris qu'elle était devenue un oiseau, un aigle, elle a retrouvé la vue. Et là, elle s'est envolée vers le soleil. Et le conte se termine en nous disant tout simplement que ce jour-là, les amis souris qui étaient dans le village, ils ont vu une très belle tache sur le soleil. Voilà. Donc là, on est avec un parcours vraiment initiatique, hein, c'est le parcours du guerrier amérindien. C'est-à-dire qu'on est avec toutes les transformations, avec toutes les grandes étapes, enfin toutes non, parce que c'est une version très amenuisée du conte, qui peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Hein. Mais on est plus avec ce type de conte, on va en trouver dans beaucoup d'autres sociétés, et c'est plus des façons d'entrer dans le mythe hein, que des contes merveilleux ou que des contes de cet ordre, de l'ordre qu'on vient de voir. Hein. Voilà donc pour ce qui est en gros des grands contes. Hein. Bon, après il y a des toutes petites formes qui sont intéressantes aussi, peut-être des fois, parce qu'ils disent bien ce que c'est que le conteur. On va peut-être finir là-dessus, puis on ira dans la discussion si vous voulez. Ce sont les menteries. C'est-à-dire que tous les conteurs se prétendent être des menteurs. C'est-à-dire c'est une stratégie en même temps, c'est que si vous savez qu'on va vous raconter des mensonges, vous n'avez peut-être pas besoin de vous mettre en retenue et en tension pour non, on se laisse aller. Hein, donc ils cherchent le lâcher prise pour que ça aille plus vite et que ça aille mieux. Hein. Donc les menteries, moi j'en ai une que je pratique assez souvent, c'est il était une fois dans une grande forêt sans arbres, une immense rivière sans eau. Et dans cette rivière, il y avait une barque, j'y suis monté, et c'était une barque sans rame. Et arrivé de l'autre côté, je suis arrivé face à une grande montagne, toute plate, dans laquelle il y avait un immense village sans maison. Et là, je suis allé à une porte, j'ai tapé, et quelqu'un est sorti et m'a dit « Bougre de menteur, espèce de conteur !» Eh oui, les conteurs sont tous des menteurs, ils ne sont pas là pour vous dire la vérité, mais peut-être... votre vérité se révélera-t-elle dans cette histoire ? Donc c'est un espace qui est très, très utilisé par tous les conteurs. C'est-à-dire on ouvre des oreilles, on montre quelque chose, on le démonte. Et ça met dans des espaces d'écoute très particulières qui permettent après de placer d'autres contes. Donc c'est très stratégique. Ce qu'on appelle les menteries. Donc après, il y a aussi ce qu'on appelle les contes d'avertissement. Vous en connaissez tous, les contes d'avertissement, par exemple, tous les contes de Perrault qui ont été écrits, bien sûr, qui ne font pas partie de la littérature, mais tirés de la littérature, sont tous des contes d'avertissement, il y a toujours la morale. Attention, petite fille, quand tu pars dans les bois. C'est-à-dire qu'on essaie de faire... Le conte se finit mal dans les contes d'avertissement, il y a quelque chose qui se passe de négatif. Alors qu'on a vu que dans les contes merveilleux, ça se finissait obligatoirement bien pour le héros. Donc on est dans d'autres formes là aussi. Donc voilà, la palette pourrait continuer, parce qu'il y a des formes immenses. Il faut savoir que tous ces contes-là sont catalogués depuis plusieurs siècles maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à les classer dans une, dans une classification internationale, qui ne sont pas tout à fait dans ces critères que je viens de vous donner, puisque c'est surtout, on dit qu'il y a des contes d'animaux, il y a des contes merveilleux, des contes religieux, des contes nouvellistiques, c'est comme des nouvelles en littérature, mais qui sont de la littérature orale, les contes facétieux, les contes formulaires, etc. Donc il y a toute une série comme ça, et donc il y a 2900 types de contes qui existent. Donc, c'est pour ça que quand on nous parle des conteurs français comme Perrault qui a écrit 8 contes, et que c'est le conteur français, ça fait toujours un peu frémir. Parce que 8 sur 2900, ça ne fait pas grand-chose. Quoi. Type, on entend, on a pris toutes les versions qui vont avec. Mais pour vous dire aussi que, bien sûr, il y a un regard sur cette matière depuis très longtemps par des chercheurs, c'est-à-dire que les chercheurs connaissent mieux, les chercheurs en anthropologie, en sociologie, en linguistique. Il y a 18 secteurs universitaires qui travaillent régulièrement sur le conte. Ils connaissent très bien la typologie, alors qu'au niveau littéraire, souvent, on est très ambigu sur cette matière-là. Voilà, en tous les cas, ce que je peux vous en dire, et puis, on va pouvoir en parler. Alors, s'il y a des questions, je suis preneur.
Oui, dans les contes que vous me racontez, là, moi, ça me fait penser à des rêves. Parfois on est amené à faire et parfois à se souvenir.
Oui, c'est-à-dire que Freud avait déjà fait la relation. C'est-à-dire que Sigmund Freud il avait déjà dit que quelque part la psychanalyse travaillait sur le rêve individuel et que les mythes et les contes étaient les rêves collectifs de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un espace qui touche de toute façon à l'inconscient. On est toujours dans des relations limites entre les deux. Donc les psychanalystes sont beaucoup intéressés aux contes, un peu pour ça aussi. C'est-à-dire que c'est jamais très loin. On est toujours très très proche, hein, même dans ces formes-là. Mais là, on est bien dans la société qui se pense, hein, la société qui cherche l'espace du non-conscient social, hein, qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif chez Jung, par exemple. On est dans encore autre chose. Mais en tous les cas, on n'est jamais très loin, on est quand même dans des choses qui sont mises à distance. C'est l'art du conteur, c'est ça, c'est de ne pas nous laisser dans la réalité, de nous tirer loin de la réalité, mais pour mieux la voir à terme. Parce que justement, on la voit du dessus, donc on peut mieux regarder ce qui se passe. Propre de tout artiste, d'ailleurs, c'est pas que le conteur. Donc, mise à distance, c'est vraiment l'objet pour moi de l'artistique. Sinon, c'est des journalistes, les artistes, c'est pas ce travail. Donc oui, on n'est jamais très loin, de toute façon, du rêve. Ça devrait nous amener à rêver, de toute façon. Puis c'est des choses qui vont travailler profondément. C'est-à-dire que les figures qui sont posées sont toujours en relation à des stéréotypes, des clichés, des symboles qui nous mettent au travail systématiquement. C'est-à-dire quand on parle d'un arbre en plein milieu du désert, c'est déjà un espace avec des fruits magnifiques, c'est déjà un espace symbolique. Quand on parle du côté positif, négatif de l'arbre, on est déjà dans des espaces symboliques. C'est pareil pour l'oiseau en cage et... C'est des choses qui sont très, très bateaux, on pourrait dire très stéréotypées, mais qui réveillent en nous toute une série de choses qui sont de l'ordre de nos contraintes avec le social, de nos difficultés des fois à assumer certaines choses. Mais c'est jamais moral. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. On verra après la prochaine conférence, on ira sur la fable et le chant. Donc la fable est vraiment faite pour faire de la morale. Mais le conte n'est pas fait pour faire de la morale. La fable, c'est vraiment ou l'espace moral, ou l'espace de la critique sociale aussi. Donc, mais le conte n'est pas fait, est fait plutôt pour réveiller une réflexion sûre. Il n'a pas de volonté d'affirmer quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu de la loi. Voilà. Ça reste très ambigu. On peut penser mille choses. Les chercheurs en linguistique disent que c'est polysémique. Il y a plusieurs sens possibles. Chacun va entendre le sens qu'il a envie d'entendre. C'est le moteur de toute cette matière, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens arrêté. C'est le moteur du conteur aussi. C'est-à-dire le conteur, comment il agit logiquement, c'est qu'effectivement, il va faire en sorte de ne pas trop décrire. De manière à ce que vous, quand vous entendiez des mots, vous soyez obligé de continuer à faire des images. Si vous ne pouvez pas, si vous ne faites pas les images, ça ne marche pas. Et c'est là que vous vous appropriez le conte. Moi, je vous raconte quelque chose avec mes images, mais celles que vous avez ne sont pas les mêmes. par obligation. Parce que vous n'avez pas le même grenier à images.